Joseph, bonsoir. La pétition introduite par les députés de l'opposition contre Aubin Minaku, le président de l'Assemblée nationale, a été rejetée au cours de la plénière tenue samedi dernier au Palais du Peuple. Une plénière que lui-même, Aubin Minaku, a présidée en l'absence de tous les députés nationaux de l'opposition. Cependant, certains députés de la majorité dénoncent l'absence des débats républicains qui bloquent le contrôle parlementaire au sein de cette institution. Comment analyser cette situation? C'est le thème de notre débat de ce soir. Participe au débat Christian Mwando, député national de l'opposition et président national du parti politique UNADEF. Il est membre du conseil des sages du Rassemblement et vice-président de la plateforme G7. Monsieur Mwando, bonsoir.
Bonsoir.
François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Monsieur Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Kelly Kouté, bonsoir les auditeurs de la radio Capi.
Et Joseph Kongolo, il est analyste politique. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, la pétition introduite par les députés de l'opposition contre Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, a été rejetée au cours de la plénière tenue samedi dernier au Palais du Peuple. Une plénière que lui-même, Aubin Minaku, a présidée en l'absence de tous les députés nationaux de l'opposition. La question de procédure pour débattre de cette pétition a divisé les députés pétitionnaires et ceux de la majorité présidentielle. Le point avec vous, Askan Zigbia.
La responsabilité d'Aubin Minaku mise en cause dans cette pétition n'a pas pu être examinée à fond pour l'évincer du perchoir. Les pétitionnaires disent être surpris par la plénière du samedi dont l'ordre du jour a été volontairement modifié séance tenante pour prendre à contre-pied le député national de l'opposition. D'après le député national Christian Mwando Simba, le rejet de la pétition n'est qu'une forfaiture que Aubin Minaku a bien voulu entretenir pour détruire la démocratie au sein de l'hémicycle.
Le président devait de toutes les façons ne pas présider cette plénière qui concernait sa personne selon le règlement intérieur. Il a changé séance tenante l'ordre du jour. Il s'agit donc d'une félonie pour détruire la démocratie.
Pour François Nzekouye, il n'est pas admissible pour la Chambre basse de traiter une pétition dont les auteurs boycottent la plénière.
Le bureau a fait diligence pour donner droit à la demande des collègues et eux-mêmes ont montré l'injure encore une fois vis-à-vis de l'Assemblée en étant absents pour une matière qu'eux-mêmes ont initiée.
Sachez que cette motion incidentielle a été votée sans peine par la majorité présidentielle, ce qui relance la problématique autour de l'usage abusif de motions incidentielles que condamne souvent l'opposition à l'hémicycle.
Merci Askan Zigbia, mais que prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale quant à la question d'une pétition contre un membre du bureau, en l'occurrence le président? Quelle devrait être la procédure à suivre? Élément de réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
L'article 26 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit son alinéa 2 que la déchéance d'un membre du bureau est prononcée par l'Assemblée plénière, délibérant la suite d'une pétition signée par au moins un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il s'agit du président du bureau de l'Assemblée qui est mis en cause, l'alinéa 3 du même article 26 prévoit que la plénière soit convoquée et présidée par le membre préséant. En d'autres termes, c'est le premier vice-président qui est habilité à convoquer et présider la plénière qui devrait traiter de la pétition initiée contre le président Aubin Minaku. Et lorsqu'une motion ou pétition est introduite au bureau, l'article 61 du même règlement stipule que les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant les séances, sauf cas d'urgence. Une disposition qui est complétée par l'article 196 qui atteste que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion.
Merci Jacques-Yves Molima. François Zécouillé, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Vous êtes initiateur de la motion incidentielle. Pourquoi l'avoir fait?
Pour plusieurs raisons. Mais avant de les aborder, laissez-moi d'abord remettre en cause beaucoup de vos affirmations. Première affirmation, vous avez dit que la plénière s'est tenue à l'absence de tous les députés de l'opposition, ce qui est faux. Il y avait une trentaine de députés de l'opposition et un de mes contradicteurs, quand j'ai fait ma motion silencieuse, c'est l'honorable Okoyo qui est de l'opposition. Vérifiez donc l'invention avant de les affirmer. De deux, les dispositions et la pratique parlementaire et permet à un président de l'Assemblée nationale, quand une séance plénière a été suspendue, quand on doit la réouvrir, la continuer, de présider et de présenter l'ordre du jour. C'est seulement après, comme le président de l'Assemblée nationale était incriminé, qu'il pouvait céder la place une fois la question inscrite à l'ordre du jour. Ce qui n'était pas le cas. Donc, Obeminaku avait le droit de présider une séance suspendue par lui et qui devait se poursuivre par lui. Ceci dit, la veille, il y avait plénière, et quand une matière n'est pas finie, on continue et on peut inscrire un point à l'ordre du jour, c'est en tenant, et Christiane peut même le contredire, on le fait des pratiques parlementaires de manière régulière.
Mais la veille, on parlait de cette motion contre le président.
Je vais vous répondre, madame. On ne peut ouvrir une séance plénière quand elle a été close. Nous n'avons pas clôturé des séances plénières depuis le début de la semaine. Nous n'étions que dans la continuité des plénières. Et donc, par conséquent, les collègues ont reçu la pétition, comme nous, d'abord, et initiateurs, et les mêmes jours où la pétition a été déposée, elle a été mise dans nos boîtes à lettres, à nous tous parlementaires, opposition comme majorité. Et donc, comme l'article 26 le dit, on soumet, l'article 61 plutôt, on soumet la question à débat 48 heures, sauf urgence. N'y avait-il pas urgence? Quand on veut déstabiliser les bureaux de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'est pas urgent qu'on puisse régler cette question le plus rapidement possible? Il y avait donc urgence.
Et c'est la démarche que vous avez suivie, vous avez estimé qu'il y avait eu urgence.
Il y avait urgence absolument, parce que c'est le chef d'une institution qui était mis en cause, il fallait régler la question le plus vite possible.
Alors que l'opposition attendait les 48 heures, non, donc ce que j'ai dit,
l'article, votre collègue a si bien lu l'article 61 qui dit « sauf urgence ». Ça change tout. Si on n'avait pas mis l'incise « sauf urgence » à l'article 61, ils auraient eu raison. Mais l'incise est là, sauf cas d'urgence. Et là, il y avait urgence.
Mais alors, vous m'avez posé la question. Pourquoi n'avoir pas informé les collègues députés de l'opposition? Parce qu'ils se sont plaints.
Je viens de vous dire qu'ils étaient informés. Ils étaient informés par les faits du dépôt de cette pétition dans leur boîte à lettres. Ça, c'est le premier moyen d'information. De deux, rien n'interdit dans la procédure parlementaire qu'une nouvelle matière soit inscrite à l'ordre du jour. Et donc, pendant que le président a ouvert la reprise d'une séance, il nous a annoncé qu'il voulait inscrire une matière à l'ordre du jour. C'est à ce moment-là que nous sommes intervenus pour dire « cette matière ne peut pas être inscrite à l'ordre du jour pour des raisons que je vais vous évoquer maintenant, parce que telle était votre question. » La première question, c'est que les collègues, j'ai leur pétition devant moi, disent expressis verbis et en gras et italique que le président de l'Assemblée nationale, en sa qualité de secrétaire général de la majorité présidentielle, admet les recours au mécanisme de motion incidentielle. Comment un secrétaire général d'une majorité présidentielle fait privé peut-il présider une institution qu'on appelle l'Assemblée nationale et prendre décision en qualité de secrétaire général pour pouvoir infléchir ou changer une disposition qui concerne les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale?
Et donc, estimez que tout a été faussé à partir de là.
À partir de cela, il y a des fausses qualités. À moins que Christian me dise aujourd'hui que tous les opposants ont signé la charte de la majorité présidentielle, et alors dans ce cas-là, il devait se déporter au siège de la majorité présidentielle pour révoquer ou invoquer la déchéance éventuelle secrétaire général de la majorité présidentielle. Ce qui n'est pas le cas.
Ces deux fonctions sont-elles compatibles, secrétaire général et puis président? Ça ne prête pas à confusion.
Ce sont des faits privés. Christian Monde aussi, mon cher collègue ici, je suppose qu'il est homme d'affaires dans sa vie privée et ce n'est pas incompatible. Le fait d'être en politique et de diriger un groupe de ses collègues dans le privé n'est pas incompatible avec la fonction du président de l'Assemblée nationale. De deux, parce que vous m'avez posé la question pourquoi. La deuxième question, c'est la mauvaise direction de la pétition des collègues. Ils disent que le président de l'Assemblée nationale autorise les motions incidentielles. Ce n'est pas lui qui les autorise. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale autorisent à chaque député, à l'article 69, d'user des motions au niveau de l'Assemblée nationale. Et le président soumet toujours cette question aux voix, après débat, Xiléché. Et donc, c'est les députés nationaux qui décident de l'usage d'une motion incidentielle. Et cela est de droit en toute matière débattue à l'Assemblée nationale. Fut-il une motion de défiance contre les membres du gouvernement.
Et donc, si je comprends bien, les députés n'ont pas la même compréhension du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée.
Ils doivent rentrer à l'école s'ils n'ont pas bien lu le règlement intérieur. Parce que le règlement, il est très clair. La motion incidentielle peut être utilisée à tout moment. Sinon, qu'adviendrait-il? Parce qu'eux, ils disent que la motion incidentielle n'est pas constitutionnelle. Or, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a subi les tests de conformité à la Constitution. Donc, ces deux textes ne peuvent pas s'opposer parce qu'une disposition constitutionnelle dit que si une disposition du règlement intérieur n'est pas conforme à la Constitution, elle n'est pas d'application. Or, tous les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale a été déclaré conforme à la Constitution. C'est là le caractère vexatoire que nous avons évoqué pour rejeter cette motion. Et enfin madame,
rapidement.
Nous avons dit que nos collègues ne peuvent pas s'y prévaloir les proprioputudes quand il s'agit du contrôle budgétaire. Ils accusent encore une fois le président de l'Assemblée nationale de ne pas faire appliquer les taux budgétaires, de ne pas contrôler le budget. Mais c'est une initiative qui doit revenir à chaque député, individuellement ou collectivement, mais aussi les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Merci,
disposent que
l'ECOFIN
peut le faire et doit le
Merci,
faire régulièrement.
Merci François Zekouye. Christian Mando, député national de l'opposition et président national du parti politique UNADEF. Vous êtes membre du conseil des sages du Rassemblement et vice-président de la plateforme G7. Comment vous réagissez à tous ces propos de François Zekouye qui dit que la démarche n'avait pas été respectée?
Merci madame pour la parole. Je pense que mon ami et collègue Zekouye ne doit pas considérer que nous sommes ici pour avoir raison à tout prix. Nous sommes des hommes d'État et nous sommes ici pour débattre, pour faire éclore la vérité. Vous vous êtes rendu compte que dans ses propos, il se contredit et il rentre dans une turpitude incroyable. Premièrement, il dit que le président de l'Assemblée nationale n'a pas clôturé une séance, c'est-à-dire que Aubin Minaku a continué une séance. Donc, il confirme par cela que les députés n'ont pas été convoqués à nouveau pour traiter de la pétition. Ça, je crois que c'est un point qu'il faut retenir. Deuxième point à retenir. Aubin Minaku et le bureau ont usé de tromperie parce qu'ils ont convoqué effectivement la plénière sous un faux ordre du jour. L'ordre du jour concernait le traitement de l'ordonnance sur la taxe sur la promotion de l'industrie. Troisièmement...
Mais le règlement n'interdit pas d'ajouter un autre ordre du jour.
Dès lors, donc, si on ajoute un autre ordre du jour, l'honorable Nzekouye, et mon ami l'a si bien dit, Aubin Minaku aurait dû se déporter. Il ne pouvait pas être juge et parti. Pour une matière aussi sérieuse, qui concerne l'avenir, qui concerne la démocratie au sein de l'hémicycle. Est-ce qu'on peut traiter ce point avec autant de légèreté? L'honorable, je ne sais pas si l'honorable Nzekouye, peut-être lui comme son téléphone, marche si bien avec l'Assemblée nationale pour boutiquer des choses contre la République. La pétition a été déposée le vendredi à 16h. Quand est-ce que lui, l'honorable Nzekouye, a pris connaissance de cette pétition? Quand est-ce que les autres députés membres de l'Assemblée nationale ont pris connaissance de cette pétition? Et puis, troisièmement, l'honorable Nzekouye, soyons sérieux, messieurs. Quand l'honorable Nzekouye parle de la qualité d'Aubin Minaku comme secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Nzekouye est déjà dans le fond. Il n'est pas dans l'incident. Il est dans le fond. Il est dans le débat sur le contenu de la motion. Parce que les points qu'il soulève concernent un point qui est dans la pétition. C'est-à-dire qui aurait dû être débattu. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale n'a-t-il pas honte de faire éjecter une question aussi importante qui les concerne par une simple motion incidentielle sans contradiction au centre de la démocratie? Je crois qu'il s'agit d'une imposture que nul Congolais ne peut accepter.
Monsieur Mwando, cette pétition a été adressée à Aubin Minaku, président de l'Assemblée ou secrétaire général de la majorité présidentielle.
Madame, vous avez lu la motion, j'espère. Vous avez lu la lettre qui l'a accompagnée. Cette lettre a été adressée au président de l'Assemblée nationale et a été adressée à Aubin Minaku comme président de l'Assemblée nationale. Le point, c'est pour ça que je dis que l'honorable Nzekouye est dans le fond. Le point qu'il aborde, nous avons reproché à Aubin Minaku de se comporter en sa qualité de président national comme chef d'un groupe. Et ça, c'est dans le fond. Et l'honorable Nzekouye et son équipe, ses collègues, auraient dû traiter de ces débats dans le fond. La vérité, madame, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, l'honorable président de l'Assemblée nationale et son groupe ne veulent plus que le peuple sache la vérité. Ils ont peur du débat. La vérité, madame, vous devez le savoir, c'est que la démocratie est écrasée. Quel est le problème de la motion présidentielle? Aubin Minaku et la majorité, si majorité il y a encore, moi je l'appelle maintenant mouvance présidentielle. Aubin Minaku a peur de laisser sa propre majorité seule devant sa conscience dans l'isoloir. La question de la motion présidentielle, c'est parce que les collègues de la majorité vivent dorénavant dans la terreur. Il faut faire des motions présidentielles pour faire voter les gens à main levée. Parce que si la motion où la pétition va jusqu'au bout, c'est l'isoloir où chaque député doit agir
donc,
en son âme et conscience.
Donc toutes les raisons avancées par M. Nzekouye ne sont pas fondées, selon vous.
Madame, commençons d'abord par les fondamentaux. 1. L'ordre du jour inscrit, c'est un faux ordre du jour. L'honorable Nzekouye peut me contredire si je mens. On a balancé un faux ordre du jour. 2. Le délai de 48 heures n'a pas été respecté. Pourquoi?
Il y avait l'urgence, selon M. Ndoukou.
Voilà, l'urgence due à l'inconscience, à la responsabilité de vouloir humilier toujours le peuple congolais, de ne pas laisser le peuple congolais comprendre où est la vérité. Mais quel était le degré d'urgence pour qu'en moins de 48 heures, Aubin Minaku convoque la plénière sous un faux prétexte? Et troisième chose, dès lors que la question a été abordée, Aubin Minaku aurait dû cesser de présider. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Madame, vous le suivez comme moi. La mouvance présidentielle ne respecte plus rien. Les lois sont écrasées. La constitution est violée. On a parlé tout à l'heure de la réponse de la Cour constitutionnelle concernant l'article 146. La Cour constitutionnelle a été très claire. Ça ne porte pas lieu à interprétation.
Merci.
Et l'honorable doit savoir qu'il y a la hiérarchie des textes.
Merci,
la Constitution est au-dessus de tout.
En vous redonnant la parole tout à l'heure, Joseph Kongolo, analyste politique, comment vous analysez cette situation?
Bien, madame, merci beaucoup pour la question. Je voudrais, d'entrée des jeux, dire d'abord que le Parlement est en train de livrer un spectacle très isolant face, n'est-ce pas, à la population. Ce qui est vrai, c'est que le Parlement, c'est un creuset des débats démocratiques. Le Parlement, c'est un modèle de production démocratique. Mais le spectacle auquel nous assistons, c'est un spectacle très, très, très désolant. De constater effectivement que, l'honorable vient de le dire tout à l'heure, que la démocratie est vraiment étranglée. Étouffer, on ne sait pas libérer la démocratie à travers des débats, parce qu'en fait, le Parlement, c'est ça le creuset, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on sent depuis un certain temps, effectivement, qu'il y a un syndrome de malgouvernance de la République qui est en train de contaminer pratiquement la gestion des institutions, c'est-à-dire des piliers principaux, n'est-ce pas, de l'État. C'est en particulier le Parlement aujourd'hui. Donc, on a constaté un fléchissement total dans la gestion du pays et qui est en train de se manifester pratiquement au niveau du fonctionnement de toutes les institutions. En particulier le Parlement, avec ce que nous vivons tous les jours, si vous suivez les deux intervenants, vous sentez effectivement qu'il y a un malaise profond, n'est-ce pas, au sein du Parlement. Donc, ce que je veux dire, c'est que la démocratie est totalement étranglée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les lignes politiques qui président, ce sont les sentiments, ce sont les cœurs qui s'expriment en dehors de la raison.
de la raison républicaine, de la raison démocratique. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une sorte d'étouffement de l'expression, non seulement au sein de l'hémicycle, vous le constatez aussi au niveau de la société, de la société globale, on sent qu'il y a une restriction totale, n'est-ce pas, des droits d'expression, de réunion, de ceci, et c'est tout à fait normal.
On voit quand même les députés de l'opposition s'exprimer librement à l'Assemblée nationale, monsieur Kongolo.
Madame, quand il y a des enjeux majeurs, qui doivent faire exister la démocratie, qui doivent, donner lieu, n'est-ce pas, à la consolidation, n'est-ce pas, du fonctionnement de la démocratie, c'est là que nous voyons, effectivement, si la démocratie est libérée ou elle est totalement étouffée, voyez-vous. Donc, à ce niveau-là, nous avons une impression nette, n'est-ce pas, d'une démocratie totalement étouffée. Mais quand il faut donner des avis sur d'autres problèmes de gestion du pays, effectivement, on libère, c'est une sorte de soupape de sécurité, n'est-ce pas? On libère et puis très vite on ferme quand ça concerne, n'est-ce pas, des éléments fondamentaux, n'est-ce pas, de la gestion, n'est-ce pas, de la démocratie au sein de la République, enfin au sein de l'hémicycle. Donc ces jeux-là, ça veut dire tout simplement dire que le Parlement n'est pas détaché de la gestion globale de la République. Une malgouvernance, une gouvernance étouffée, c'est tout à fait normal qu'au niveau aussi de l'institution parlementaire, qu'elle soit étouffée. Et le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui, ça va être très désolant. Madame, vous êtes journaliste, vous savez que c'est sur l'ensemble des secteurs où les choses sont totalement bloquées. Donc, quand ça atteint le cœur, n'est-ce pas, de l'institution parlementaire, eh bien, ça ne nous étonne pas, c'est la conséquence logique.
Alors, par rapport à la motion incidentielle, il y a un règlement d'ordre intérieur qui existe à l'Assemblée nationale. Et donc, chacun l'interprète selon qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Comment vous expliquez ça?
Aujourd'hui, on s'exprime selon les lignes politiques. C'est-à-dire, c'est le cœur qui s'exprime. Je suis de la majorité, je suis de l'opposition, mais la raison a perdu sa place. Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Zoukouy a parlé ici, mais je dis du point de vue éthique. Nous avons vu à la première législature qu'Amer était, je crois, président de la majorité, n'est-ce pas, secrétaire général du PPRD, et une fois élu, quelques temps plus tard, il a démissionné. Du point de vue éthique, je dis bien l'éthique, c'est une valeur démocratique. Il a démissionné. M. Beauchamp est venu, il est resté à la tête, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, tout en étant secrétaire général du parti. Aujourd'hui, c'est la même chose avec l'honorable Minako, qui est là, tout en restant président du Conseil. Écoutez, madame, je vous dis sincèrement que l'éthique, c'est ça la valeur fondamentale d'une démocratie. Là, encore une nouvelle fois, les réflexes d'appartenance à un groupe politique reviennent toujours et surtout quand les enjeux, quand il y a des enjeux politiques majeurs, c'est tout à fait normal qu'il s'est réfugié, qu'il s'est repli sur ses réflexes naturels, n'est-ce pas, d'appartenance à un groupe politique. Donc tout ça, ça montre qu'il y a un malaise profond au sein de l'institution parlementaire. Troisièmement, on parle de l'urgence. Madame, qui juge de l'urgence? Est-ce que c'est le président seul qui juge de l'urgence? Est-ce que c'est le bureau seul qui juge de l'urgence? Qui juge de l'urgence? Or, il y a des institutions au niveau du Parlement, il y a la conférence des présidents, il y a ceci, ainsi de suite. Je crois que tout ça démontre clairement, n'est-ce pas, qu'il y a faillite de la démocratie au sein des institutions de la République. Et tout cela a une explication claire, c'est que on est largement au-delà du cadre constitutionnel légal, on est dans le fait. Et très vite, on s'approche du jungle.
Merci, Joseph Kongolo. François Nzekouy, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Mabela, je vous appelle depuis Kisangani. L'Assemblée nationale est devenue plus que jamais la caisse des résonances du pouvoir en place. Cette triste réalité s'explique notamment par la confusion délibérée de la fonction du président de l'Assemblée nationale et du secrétaire général de la majorité présidentielle, Kassim Messier Obeninaku. L'absence du sens d'intérêt général dans les chefs des non-députés nationaux qui privilégient leurs intérêts politiques égoïstes au détriment de l'intérêt général. Les velléités du chef de l'État et sa famille politique à demeurer au pouvoir et la conjonction des stratégies macabres pour ce faire. Cette réalité, pourtant aux antipodes de la démocratie, annonce la réinvention d'un système autoritaire en RDC. Car si l'Assemblée nationale, considérée dans un système démocratique comme le temple de la démocratie, brille par l'intolérance politique, l'absence du débat démocratique et la gabegie organisationnelle, elle fait les lits à la dictature.
François Zécouillé, cet auditeur, dit que l'Assemblée nationale est devenue plus que jamais une caisse de résonance du pouvoir en place.
Non, je crois qu'il y a une confusion. Il faut savoir que une majorité cohérente reste majorité et solidaire à son gouvernement, sauf, bien évidemment, quand il y a eu des preuves de mauvaise gestion. Moi, je suis quand même surpris de ce genre de discours, quand vous savez très bien ce qui s'est passé entre Obem Minaku et Matata. Matata, Premier ministre, Obem Minaku, président de l'Assemblée nationale, tous du même parti politique. Suite à une question orale avec débat d'un député de l'opposition, Bindoulé, je le cite, Matata Ponyo a écrit dans la presse pour dire que sa propre famille politique qui veut sa tête. Bindoulé a dû se défendre pour dire qu'il n'a jamais été instrumentalisé dans ce sens. Alors, comment on peut dire que l'Assemblée nationale est une caisse de résonance dès lors que, publiquement, par le fait que le président de l'Assemblée nationale autorise qu'il y ait un débat et qu'on reçoive un Premier ministre qui est de notre famille politique à l'Assemblée nationale, il y a eu ce qu'il y a eu dans cette République. Alors, je ne vois pas de caisse de résonance là-dedans. Alors, laisse-moi revenir au propos de Christian. Christian, rappelez-vous que le fait d'ajouter une matière à une séance qui n'a pas été close est des pratiques parlementaires. Et vous y avez assisté plus d'une fois sans jamais lever votre doigt pour le contredire. Alors, acceptez que c'est une pratique et à laquelle vous avez toujours participé, ne l'évoquez pas. De deux, sachez que même devant les juges, les demandeurs ne peuvent jamais demander le temps pour s'imprégner du dossier. Ce sont eux qui ont rédigé la pétition. Ce sont eux qui l'ont soumis. À quel moment voudrait-il encore le lire? Parce que ce sont eux les auteurs. Cette réserve pouvait être évoquée par nous de la majorité. En disant
vous
que le document...
Vous avez
le document a été déposé le vendredi à 15h20. Il a parlé de 16h. Ce qui est faux, la preuve de l'accusé de réception est ici.
Et
avec
vous l'avez mis à quelle heure?
Nous l'avons reçu le même jour dans ma boîte. Moi, je suis passé au Parlement à 17h. Il était dans ma boîte.
Et vous avez donc, le temps de le lire.
Mais ces deux pages, madame, pourquoi, laissez-moi vous dire aussi, parce que j'étais parmi les rédacteurs du règlement intérieur. On évoque les délais de 48 heures, pourquoi? Parce que parfois nous avons des documents volumineux, qui exigent effectivement qu'on ait du temps de les lire. Mais madame, ces documents ici, fait de 5 à 6 pages, vous pouvez les lire à une demi-heure. Encore que la plupart des pages sont des pages de signature. Devons-nous lire pendant des heures les noms des signataires? Non. C'est un document qui pouvait être lu en 30 minutes et aucun député ne peut dire qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour lire ce document et décortiquer. Simplement, les députés de l'opposition veulent, comme je l'ai dit, tu peux voir les propres tupitudes, on convoque une plénière, fut-il pour une autre matière. Ils ont droit de sécher les plénières parce que cette matière ne les intéresse pas. Et encore que ce sont eux-mêmes qui étaient...
Mais pourquoi avoir donné un ordre du jour à...
Laissez-moi vous dire, c'est des pratiques parlementaires. Mais l'auteur de la proposition de loi modifiée complètement l'ordonnance sur la promotion de l'industrie est initiée par l'honorable Jean-Baptiste Koumassamba, de l'opposition comme eux. Comment pouvez-vous être auteur d'une proposition de loi, elle est programmée en plénière et vous êtes absent? Est-ce que c'est faire respect au peuple congolais? Est-ce que c'est respecter l'institution à laquelle vous siégez? Est-ce que les députés de l'opposition peuvent nous dire que parce que la question des taxes qui doivent permettre à ce que notre industrie se développe ne les intéresse pas? Et pour cela, ils pouvaient sécher la plénière et dire non, on les a surpris. Est-ce que nous sommes payés pour sécher les plénières ou nous sommes payés pour travailler? Donc, encore une fois, je viens de vous
dire,
madame...
Et donc, ça se fait souvent, on donne un faux ordre du jour, et lorsqu'on l'a mis
normal,
le jour
ça se fait quand il y a urgence, on le fait, et il essaie de ne pas me le contredire. De deux, laissez-moi rebondir sur les propos de votre expert, qui me paraît plus un opposant qu'un expert. De quelle éthique parle-t-il? Angela Merkel, chef de CDU, elle est Premier ministre, et dirige le gouvernement. Cela n'est pas éthique parce que c'est en Occident, et ça se devient éthique quand c'est chez vous au Congo. Non, il n'y a aucune incompatibilité. Lui, il est chef de son parti politique, vous savez, Christian Mondo est président de le parti qu'il a hérité de son père. Est-ce pour autant qu'il ne siège pas au Parlement? Non, monsieur. Arrêtez ces propos déguisés des opposants en vous vêtissant des caractères d'experts. Vous dites qu'on parle avec les cœurs. Les règlements, intérêts de l'Assemblée nationale, c'est une affaire des cœurs. On vous cite les articles prévus dans le règlement intérieur qui autorisent une motion incidentielle et qui peut bloquer toute démarche d'exploitation d'un document. Et vous dites que c'est un problème de cœur. Non, monsieur.
Merci.
Nous avons les textes qui nous résistent, que les collègues nous prouvent que nous avons violé ces textes. Là, nous allons accepter.
Merci.
Mais tant que tout ce qui a été fait est conforme aux textes qui nous résistent, nous avons raison et nous devons
merci,
procéder.
Merci, François Zécouy. Merci. Christian Mando, on a aussi une réaction pour vous. Qui nous vient de quelle province? Déjà de la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Abamungu Balibouza depuis Bukavu. À mon avis, je pense que ce n'est pas la présence de M. Minaku à la tête de l'Assemblée nationale, ni l'absence des députés de l'opposition au débat qui bloque la marche du pays. Je me demande pourquoi les préoccupations des députés de l'opposition ne concernent que les mandats du président de la République, les pétitions ou autres questions les avantageant. La population a besoin de plus que cela. Pendant que l'insécurité règne à mettre par-ci par-là, pendant que le pouvoir d'achat de la population ne cesse de baisser, pendant que les voies de communication ne cessent de se délabrer, aucun député de l'opposition n'ose sécher les débats pour faire pression. L'opposition congolaise devra apprendre à être constructive, car si rien ne va au pays, les deux camps ont chacun sa part de responsabilité.
Christian Mando.
Merci. D'abord, je remercie l'auditeur pour ses questions. Je crois que ici, nous devons être responsables. On ne peut pas gérer un pays dans la tricherie et le mensonge. Ce n'est pas possible. Un fait saillant, vous montez sur l'ordre du jour, vous décrétez une urgence qu'il n'y a pas, vous réglez. Vous...
Ça se fait souvent.
Ok. D'après, donc, c'est-à-dire, il faut continuer dans les mauvaises habitudes. Je voudrais dire ceci à notre auditeur. Le combat que l'opposition est en train de mener aujourd'hui, c'est un combat fondamental. Les questions de sécurité, les questions de justice, justement, c'est ça qui nous a fait sortir de l'hémicycle. Parce que, une fois de plus, lorsque nous avons interpellé, lorsque nous avons appelé le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, usant des subterfuges comme d'habitude, Aubin Minaku et sa majorité mécanique ont refusé que ces gens viennent s'expliquer devant le peuple sur les évasions dans les prisons, sur l'absence des libertés, sur le blocage des manifestations publiques. Et tant que cette question ne sera pas réglée, et c'est pour ça que nous avons attrait en pétition Aubin Minaku, en lui disant qu'il ne peut pas continuer à tricher pour empêcher le Parlement de faire son travail, nous n'irons nulle part. Parce que nous sommes en train de parler de cela. Qu'est-ce qui a empêché aujourd'hui que l'Assemblée nationale puisse parler du réajustement des salaires des enseignants, des médecins et tous les autres? Parce que Aubin Minaku bloque le contrôle parlementaire. Nous avons dans
cette
la pétition,
n'est pas importante.
Dans la pétition que nous avons faite contre Aubin Minaku, nous lui avons dit qu'il empêche le contrôle budgétaire. Aujourd'hui, s'il n'y a pas des élections, c'est par la faute de Aubin Minaku et sa majorité mécanique qui ont empêché le contrôle vis-à-vis de Matata qui n'a pas payé un franc à la CI pour organiser les élections. Donc, la question que nous sommes en train de poser ici est une question qui concerne le bon fonctionnement de l'hémicycle qui représente le peuple. Aujourd'hui, vous avez suivi à Lubumbashi. Tshisekedi est arrivé là-bas, et militarisé. Tout cela, ce sont des problèmes de fonctionnement de la démocratie. Tout ce que le collègue essaie de nous parler ici n'est que manière de mentir. Parce que cette mouvance présidentielle a peur de la vérité, a peur de laisser le peuple libre, a peur de laisser le peuple parler, a peur qu'on écoute tout ce qu'ils font de mal. Et cela, c'est tout ce que l'émotion incidentielle et autres ne sont que des subterfuges pour empêcher aux gens de s'exprimer, pour empêcher le vrai débat et empêcher le contrôle. Parce que le collègue doit comprendre une seule chose, c'est que l'opposition qui est constitutionnelle n'est pas faite pour nuire à la République. Elle est faite pour rétablir l'équilibre. Il faut laisser l'opposition s'exprimer, assumer ses obligations pour permettre que le pouvoir n'écrase pas tout le monde.
Mais elle s'exprime l'opposition, on vous voit.
Madame, je dis que heureusement qu'il y a encore Radio Okapi à l'Assemblée nationale. Vous nous voyez nous passer sur la RTNC?
Vous nous voyez sur quelle chaîne? La chaîne que nous
mais
payons avec notre argent.
Au sein de l'hémicycle, vous exprimez librement.
Au sein de l'hémicycle, nous avons, si vous avez lu la pétition, nous avons reproché à Aubin Minaku de déstabiliser les opposants chaque fois qu'ils veulent prendre la parole. Ça fait partie des griefs que nous
alors,
reprochons.
Alors, il y a Josué Kakoulé de Boutemonor-Kivu qui dit ceci. Si les motions de défiance qui visent les ministres sont bloquées, par quelle magie pouvait-on s'imaginer qu'une pétition qui vise celui qui est accusé de faire obstruction au contrôle parlementaire soit acceptée, mais aussi, par son absence, l'opposition a permis à Aubin Minaku et sa famille politique de rester seul maître du jeu sur le terrain et que donc s'attendre au compteur, c'était serrer son prénom.
Non, je crois que nous avons permis quand même de mettre le système à nu. La tricherie, la félonie a été mise à nu aujourd'hui. Nous avons quand même quelque part atteint notre objectif de montrer à notre peuple quel genre de personnage nous gouverne. Et pour moi, c'est très important. Bientôt, il faut qu'on aille aux élections et je pense que le peuple doit juger chacun selon son comportement.
Merci, Christian Mando, Joseph Kungulo. On lance une réaction pour vous qui nous vient de Kolwezi dans le Lualaba.
Professeur Inès Lala, depuis Kolwezi dans le Lualaba. En effet, à force de politiser tout et en priorisant l'appartenance politique sur les rôles des institutions, les représentants du peuple n'ont pas seulement oublié leur devoir de redevabilité, mais en même temps ils ont coué le jeu démocratique, cherchant plus à protéger les hommes que les valeurs. Dans cette pratique, il n'y a aucun modèle à suivre.
Une réaction.
Bien. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur Ignace. L'honorable Zikouye venait de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas d'éthique parce que Merkel est président du parti et en même temps président de la République. Non. Nous n'avons pas le droit aussi de faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être. La République démocratique du Congo et l'Allemagne sont deux États de deux hémisphères différentes et nous avons, nous, une démocratie naissante qui doit, en principe, suivre des principes et être en quelque sorte didactique. Pourquoi Kamer a démissionné? Parce qu'il est aussi congolais comme tous les autres, il est aussi secrétaire général du parti. Pourquoi lui a démissionné? Vous voyez?
Donc, tous. Il n'est pas obligé de démissionner.
C'est vous qui le dites. Mais à l'inter, je connais la majorité. C'est notre majorité à tous. Nous sommes congolais, nous connaissons, n'est-ce pas? C'est une composante, n'est-ce pas, politique de notre pays. Nous savons qu'il a été poussé à démissionner parce qu'il y avait encore le relent d'une démocratie naissante. Aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus, c'est tout à fait normal qu'on n'exige plus la démission, n'est-ce pas, de celui qui exerce ses fonctions à la tête, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Donc, disons-le, ce serait mieux, n'est-ce pas, tout simplement de démissionner et d'exercer en toute liberté, n'est-ce pas, cette fonction de président du Parlement. Ignace est en train de parler exactement ce que je venais de dire tout à l'heure, que quand les valeurs sont déstabilisées, quand les valeurs perdent leur place dans une institution qui se veut démocratique, eh bien, la position la plus proche d'une démocratie, c'est l'anarchie. Tout simplement. Donc, quand on perd les valeurs démocratiques, on glisse forcément dans l'anarchie. Là, ça devient, c'est le plus fort qui l'emporte sur le plus faible. Effectivement, c'est ce qui se passe. Au lieu de protéger la minorité, eh ben, on asphyxie davantage cette minorité pour s'exprimer. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre total. Monsieur Zikouye n'est pas sans le savoir et il est suffisamment assez lucide pour comprendre comment la démocratie fonctionne en République démocratique du Congo. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des réajustements au niveau de l'homme qui doit cesser d'être homme. Je reviens là-dessus, monsieur Zikouye. L'homme doit cesser d'être homme et devenir citoyen. Parce qu'il y a des nuances certaines entre un homme et un citoyen. Donc, il faut dépasser le niveau de l'homme social, l'homme civil, n'est-ce pas, pour devenir un citoyen dans un État démocratique. C'est justement cette carence majeure qui démontre que la culture politique, n'est-ce pas, des hommes qui se disent des hommes d'État alors qu'ils ne sont que des hommes politiques, ils doivent accéder à ces statuts d'homme d'État en faisant valoir des valeurs éthiques qui accompagnent la démocratie. Sans valeurs, sans l'éthique, sans valeurs républicaines, eh bien la démocratie n'a pas lieu d'être.
Mais est-ce qu'on n'est pas, Joseph Kongoulé, dans un jeu démocratique normal? C'est quand même la MP, la majorité, qui est aux affaires.
Je veux bien, madame, vous avez complètement raison. J'aurais voulu que les principes soient respectés pour que la majorité joue le jeu dans les principes. Donc, il faut qu'il y ait transparence du jeu démocratique. Tant qu'il n'y a pas transparence du jeu démocratique, là, c'est un abus de pouvoir.
C'est un abus de pouvoir. C'est vrai, la majorité devait respecter, n'est-ce pas, le fonctionnement normal, respecter le règlement et tout ce qui les dirige dans le jeu démocratique. Mais pas obstruer, n'est-ce pas, l'expression démocratique. En ce moment-là, il y a abus de ce pouvoir. Je veux bien. Je sais qu'il y a une majorité, doit savoir se défendre. Mais il y a les jeux politiques, la transparence du jeu. C'est ça qu'on cherche. C'est le respect des textes, n'est-ce pas, qui gèrent cette institution. C'est ça le problème, madame.
Alors, Adonis Kamwenga, de Kolwezi aussi, dit ceci: je crois que la mission d'un député au Parlement devrait se caractériser par l'impartialité dans des actions qui visent exclusivement l'intérêt du peuple. Mais aujourd'hui, nos représentants au Parlement ont incarné un comportement qui défend les ambitions de sa tendance politique en bafouant les vœux du peuple quand il s'agit de traiter un problème, quelle que soit sa forme. La MP et M. Miliakou doivent user de la raison et non de l'émotion ni de l'abus de son pouvoir, un peu ce que vous venez de dire.
Exactement. Une des valeurs, vous avez parlé de l'impartialité. Donc, ce sont un ensemble, une trame des valeurs, n'est-ce pas, qui sous-tendent une démocratie, qui doivent faire exister une démocratie. Elle ne se déclare pas, elle se vit. Voyez-vous? Donc, c'est ça, tout cet ensemble des valeurs, la partialité et l'impartialité, tous ces éléments, ça constitue, n'est-ce pas, un socle qu'il faut absolument pour faire exercer, pour faire fonctionner une démocratie, soit dans une institution, soit dans une organisation ou dans un État. Donc, vous comprenez que l'homme doit accéder, n'est-ce pas, au niveau du citoyen pour pouvoir faire respecter le principe démocratique.
Est-ce que vos arguments, Joseph Kongolo, ne sont pas finalement très idéalistes?
Je me fais entendre par M. Zikouye, et même l'honorable Mwando me comprennent très bien. Parce qu'en fait, un discours politique, c'est un discours des initiés. Ok? Nous sommes dans un débat, nous ne sommes pas dans un meeting. Nous sommes dans un débat, il y a la didactique, nous devons apprendre aux gens ce que c'est une démocratie. Et c'est à travers des débats comme ça que nous tentons de déborder du débat pour leur dire que sans ces valeurs, cette démocratie que tout le monde appelle de ses voeux risque de ne pas exister.
Alors, qu'est-ce qu'on fait en conclusion, Joseph Kongolo?
En conclusion, madame, il n'y a plus de repères. En conclusion, les institutions ont perdu leur légitimité. Ça, c'est ce qui est vrai. En conclusion, madame, ce que nous devons faire, c'est de nous ressaisir, revenir à de meilleures dispositions d'esprit, revenir dans les textes qui nous régissent et aller aux élections, changer de paradigme. Nous devons mettre en jachère ceux qui ont dirigé et chercher d'autres, n'est-ce pas, animateurs qui sont là, des meilleurs, il y en a dans la société congolaise. Et quand ils viendront, ils vont amener un autre esprit. Pour l'instant, l'esprit est pourri. L'esprit est pourri et c'est difficile de reparer sans vite approcher les élections et chercher de nouveaux animateurs.
Merci Joseph Kongolo. Voilà, François Nzekouye, votre conclusion, quelle sera la suite? Donc il faut oublier cette histoire de motion contre le président Miliakou.
Oui, d'abord avant de conclure,
on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je suis dans mon temps, madame. Je dois d'abord dire à mon ami Christian qu'il faut savoir enlever la poutre de son œil avant de chercher la paille dans l'œil du voisin. Quand il parle de tricherie, de mensonges, de félonie, nous siégeons aujourd'hui avec des anciens membres de gouvernements provinciaux qui sont entrés au gouvernement et qui en sont sortis sans le respect de l'article 24 de la loi sur la libre organisation des provinces qui dit qu'ils doivent déclarer leurs biens à l'entrée et à la sortie. J'espère que ce n'est pas le cas de Christian Mwando, mais c'est le cas de beaucoup d'entre eux et des gouverneurs qui sont devenus aujourd'hui des chefs de file de l'opposition. La pétition n'a plus de sens, elle est tombée. Aujourd'hui, que les députés de l'opposition et nous nous mettions à voter les lois essentielles pour aller aux élections.
Merci.
Qui, comme ils ne veulent pas des élections, ils vont continuer à apprécier nos plénières.
Merci François Ndekouye. Christian Mwando, l'opposition va faire quoi?
Bon, je pense que l'opposition a démontré que nous vivons dorénavant dans la tricherie. Tricherie sur la Constitution, parce qu'on n'a pas voulu organiser les élections. Tricherie sur l'accord de la Saint-Sylvestre. Tricherie sur les lois de la République, tricherie sur tout. Nous devons remettre en place les vraies valeurs et rétablir notre pays en arrêtant la tricherie. Nous devons vivre en aimant notre pays, en aimant notre peuple et en vivant comme des hommes justes. C'est tout ce que je demande à mes adversaires de la majorité.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Roung, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Merci à Mimi Kindou qui est à la prise de son, au micro Kélin Pouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokati.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.